Vous écoutez France Culture.
18h20 sur France Culture, l'heure de retrouver du grain à moudre. Ce que nous savons du commencement du monde est-il compatible avec l'idée de créateur? Voilà la question que vous posez, Brice Couturier, Julie Clarigny, avec vos invités ce soir.
Oui, merci et bonsoir Florence Thion. Oui, ce soir, la création du monde et le créateur. Étienne Klein avec nous, Michel Cassé et les frères Bogdanov. Aux manettes du grain à moudre ce soir, Ariane Herbé, Luc-Jean Reynaud.
Le problème avec les scientifiques, c'est que leurs théories sont parfois si complexes qu'il leur faut recourir à des métaphores. Ainsi, l'expression « Big Bang » elle-même est trompeuse. D'ailleurs, elle a été mise en circulation par un astrophysicien qui défendait encore la thèse d'un univers statique contre celle de l'univers en expansion, Fred Hoyle. En réalité, ce n'est pas une explosion cataclysmique qui aurait accouché de notre univers, il y aurait même du côté de la théorie des cordes des physiciens pour penser que l'univers aurait pu connaître avant le Big Bang d'autres états. Par exemple, un mouvement inverse de celui que nous vivons actuellement, expansion et refroidissement, de rétractation et de réchauffement, ou encore qu'il existe, qu'il existerait, d'autres univers que le nôtre, les plurivers, qui pourraient avoir eu moins de chances que nous et ne bénéficieraient pas des mêmes réglages idéaux que ceux dont nous bénéficions. Même lorsque des scientifiques au-dessus de tout soupçon utilisent le mot « Dieu », comment faut-il l'entendre ? Une partie du monde scientifique a lancé contre les frères Bogdanov ici présents une accusation de détournement métaphysique pour leur utilisation des propos de Stephen Hawking et de George Smoot. Le premier a déclaré « Si nous trouvions une théorie qui explique tout, alors nous connaîtrions l'esprit de Dieu », mais dans son tout récent livre qui vient de paraître, The Grand Design, il réfute précisément la théorie d'un grand dessin. Le second, auteur de la découverte du rayonnement fossile qui atteste l'existence du Big Bang, s'est exclamé avoir vu l'empreinte du créateur ou encore le visage de Dieu suivant les versions. Mais il a précisé depuis que cette métaphore n'avait dans son esprit aucune connotation religieuse. Les Bogdanov en tirent au contraire l'idée d'un code cosmique de l'univers qui serait inscrit dans la radiation fossile laissée par le Big Bang. Pour autant, il faut relever pour être juste que les théories exposées par les frères Bogdanov ont aussi des partisans parmi les physiciens les plus respectables. Je citerai en particulier le fameux Trinh Xuan Tuan, professeur d'astronomie à l'Université de Virginie, qui adhère aux théories du réglage fin de l'univers en vue de produire la vie et la conscience. Pour ce courant, qu'on réfère au principe anthropique fort, le nombre de coïncidences entre les constantes fondamentales nécessaires à l'apparition de la vie ne saurait résulter du seul hasard. Il y aurait derrière une intention fondatrice originelle. Nous avons choisi ce soir d'opposer les Bogdanov à des physiciens qui ne pensent pas comme eux, les supposant aptes à se défendre tout seuls.
Alors, les physiciens qui ne pensent pas comme les Bogdanov, puisque c'est ainsi que vous les appelez, Brice, et d'abord Étienne Klein, que nos auditeurs connaissent bien, qui est physicien, chercheur au commissariat à l'énergie atomique, qui est également professeur à l'École centrale de Paris. Étienne Klein qui signe un dernier ouvrage intitulé « Discours sur l'origine de l'univers », qui sort aujourd'hui même d'ailleurs chez Flammarion. À ses côtés, Michel Cassé, qui est un astrophysicien célèbre, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et au CEA. Michel Cassé a écrit lui aussi plusieurs ouvrages, on retiendra « Généalogie de la matière » chez Odile Jacob et « Théorie du ciel, espace perdu, temps retrouvé » qui est maintenant en poche chez Rivage. Et puis, messieurs Bogdanov, il reste à dire, parce que je crois que Brice ne l'a pas précisé dans son billet d'introduction, que votre ouvrage, le dernier, s'intitule « Le visage de Dieu », qu'il est paru au printemps dernier chez Grasset.
Alors, les frères Bogdanov, je ne sais pas, je sais jamais auquel m'adresser. Pouvons-nous dire avec certitude que notre univers a eu un commencement, le Big Bang, que cet univers a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années avec précision? Et si oui, alors, qu'est-ce qui aurait pu le précéder avant le Big Bang? Il y avait quoi?
Mais d'abord, à la première question, je pense que nous sommes tous les quatre d'accord sur cette première étape de notre raisonnement, c'est qu'effectivement, le Big Bang est aujourd'hui une réalité qui est très largement acceptée par tous. Quand je dis une réalité, c'est d'abord un modèle théorique, mais c'est devenu aussi autre chose. C'est-à-dire, ce sont des observations, on va dire, des traces expérimentales qui permettent de conclure aujourd'hui que le Big Bang est une réalité. Je ne vais pas aller dans le détail, mais il y a au moins trois grands piliers, comme on les appelle, les trois piliers du Big Bang, dont peut-être le plus spectaculaire, le plus frappant, a été décrit dans la préface de notre livre, donc Le visage de Dieu, et directement par celui qui l'a découvert, qui est donc Robert Wilson, prix Nobel 1978, pour avoir découvert ce qu'on appelle aujourd'hui l'écho du Big Bang. C'est-à-dire, en fait, c'est la radiation fossile qui va être observée plus tard par Smoot et Mather, donc à partir de 1989-90. Oui, le Big Bang a eu lieu. Maintenant,
et avant.
Igor et moi, nous nous sommes un petit peu, je dirais, démarqués de la communauté scientifique en affichant quelque chose qui n'était d'ailleurs pas une exclusivité pour nous. Hein, je crois que nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait. Mais en tout cas, en affichant notre volonté systématique à travers des travaux de recherche, donc en mathématiques pour moi et en physique théorique pour Igor, recherche de ce qui aurait pu ou pourrait se produire. Je n'aime pas le mot, hein, parce qu'il est très trompeur, avant le Big Bang. Alors, je n'aime pas du tout ce mot parce que, précisément, et nos amis, je pense, sont évidemment d'accord avec moi là-dessus, c'est que le temps,
c'est pas sûr,
n'existe justement pas. Je pense qu'au moins, on est sûr d'être sur ce point-là.
Parce que vous
n'avez
pas encore le livre d'Étienne Klein, moi je l'ai lu en avance, et ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit, on va voir.
Oui, mais là où on est d'accord, le temps n'existe pas, il n'existe pas à cette échelle. C'est-à-dire qu'en fait, si on considère quelque chose qui se passerait dans une région hypothétique située donc au-delà, hein, prenons ce mot comme ça, le plus largement possible, au-delà de l'échelle de Planck, au-delà du Big Bang, eh bien, effectivement, là, nous avons une perte des repères traditionnels sur l'espace et le temps, et donc le temps n'y est plus repérable comme chez nous, n'est plus le temps réel. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Étienne Klein, est-ce qu'on est vraiment d'accord? Parce que je vois dans votre livre plusieurs théories qui sont évoquées, et notamment l'idée d'un univers qui s'auto-entretient, comme vous l'écrivez, et qui fait que, avant le Big Bang, d'ailleurs vous n'aimez pas trop l'expression Big Bang, vous la prenez un petit peu comme une métaphore, avant le Big Bang, il y aurait déjà eu un univers, mais encore une fois, on peut estimer, enfin il y a la théorie des cordes et quelques autres, qui estiment qu'avant le Big Bang, notre univers qui aujourd'hui se dilate et se refroidit, aurait connu une phase de rétractation et de réchauffement qui aurait culminé dans le Big Bang, mais que donc avant le Big Bang, notre univers existait déjà sous une autre forme. Donc d'après vous, il y a un avant Big Bang.
Je commencerai par dire que les physiciens ont deux sortes de problèmes. Le premier problème, c'est le rapport qu'il y a entre leurs équations et le monde réel. Et donc pour tester leurs équations, ils font des expériences ou des observations qui sont justement faites pour tester les prédictions que leurs théories permettent de faire. Et puis ils ont un deuxième problème dont on parle moins, c'est le rapport entre les équations et le langage commun.
C'est pour ça que j'ai parlé des métaphores. Hein.
Voilà, et nous devons dire, avec un langage pertinent, ce que nous savons. Et c'est là qu'est, à mon avis, la plus grande difficulté. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu un Big Bang. La question est qu'est-ce qu'on appelle le Big Bang? Or, quand le mot Big Bang est apparu, et vous avez rappelé dans quelles conditions, il a tout de suite été pris comme une métonymie de l'origine. Le Big Bang, c'est la création de la matière, de l'énergie, de l'espace, du temps. Or, on sait que cette idée d'un instant zéro, ou d'une singularité, comme on dit, elle émane d'un modèle de Big Bang qui ne s'appuie que sur la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation émise par Einstein en 1915. Et effectivement, quand on remonte le cours du temps dans ce cadre-là, où la seule force décrite, c'est la gravitation, on aboutit à un univers qui, à force de diminuer, devient ponctuel. Et c'est cet univers de taille nulle qu'on appelle la singularité, à laquelle on associe un instant zéro. Le problème, c'est qu'avant d'atteindre cet instant zéro, il y a d'autres forces physiques qui interviennent, qui sont les forces électromagnétiques et nucléaires, que la relativité générale ne décrit pas. Et donc arrive un moment où les équations de la relativité générale deviennent fausses, elles deviennent physiquement fausses. Et du coup, si on veut aller plus loin, c'est-à-dire remonter au-delà de ce qu'on appelle le mur de Planck, il faut avoir une théorie quantique de la gravitation. On ne l'a toujours pas. Il y a des pistes théoriques. Aucune ne permet de calculer la phase d'avant. Alors on peut faire des modèles. On peut faire des modèles, des scénarios, etc., en faisant des simplifications. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que quand on prend différentes pistes pour aller au-delà du mur de Planck, que ce soit la théorie des cordes ou la théorie quantique à boucle ou d'autres choses, l'instant zéro passe un sale quart d'heure. C'est-à-dire, il n'y a plus d'instant zéro. Autrement dit, si on croit au sens des mots, et c'est là qu'interviennent les problèmes de langage, qu'est-ce qu'on appelle l'origine? C'est la transition qui fait passer de l'absence de toute chose à quelque chose, qui n'est pas rien. Or, nous n'avons pas la preuve scientifique que cette transition a eu lieu.
Dans votre livre,
et deuxièmement, si elle avait eu lieu, nous ne serions pas capables de la dire.
Dans votre livre, on entend aussi que le néant lui-même pourrait être traversé de virtualité.
Le vide.
Le vide, pardon.
Le vide, mais pas le néant.
Pardon. Donc il n'y a pas de néant, justement.
Non, justement, si l'origine, c'est la transition du néant à l'être, nous ne serons jamais capables de décrire cette transition. Puisque pour expliquer comment un néant peut devenir quelque chose, il faut lui attribuer des propriétés qui font qu'il n'est plus un néant.
Alors, maintenant, au frère Bogdanov, le fait qu'il y ait eu un commencement, ce que vous maintenez, le Big Bang, est-ce que ça implique pour autant l'action d'une volonté créatrice, qui aurait d'ailleurs prévu et voulu les conséquences de sa création jusqu'à l'apparition de la vie biologique? Parce que c'est ça que vous soutenez, en fait.
Oui, mais de façon un peu plus...
Igor.
Un peu plus précise, quant à ce que nous décrivons, Grechka et moi, sur ce qui aurait pu exister avant le Big Bang. Avant le Big Bang, nous pensons la seule réalité possible, descriptible, pour le physicien ou le mathématicien, et plutôt pour le mathématicien d'ailleurs que le physicien, c'est une réalité entre guillemets mathématique. Autrement dit, selon nous, avant le Big Bang, on ne peut imaginer que l'existence des lois, c'est ce que nous disons, des lois physico-mathématiques qui précèdent l'apparition de l'univers physique.
Comme un code d'engendrement.
C'est un code d'engendrement, mais pour nous, ce sont les lois et constantes fondamentales que nous retrouvons ici à notre échelle, qui sont aussi banales que la loi de la gravitation, mais dont l'origine ne nous semble pas coïncidente avec l'émergence de l'univers physique au moment du Big Bang. Ces lois sont antérieures. Et ce que nous disons, c'est que pour comprendre ce qui se passe avant le Big Bang, il faut abandonner la métrique dans laquelle nous vivons, qui est une métrique à temps réel, qui transforme à chaque instant la réalité dans laquelle nous vivons. Il faut abandonner cette métrique-là pour passer dans une autre métrique, après une phase de fluctuation entre deux métriques, qui nous conduit tout droit vers l'instant zéro. Mais alors l'instant zéro, Étienne Klein l'a dit tout à l'heure, bon, c'est quelque chose d'un peu inimaginable. Pourquoi ? Parce que le temps a perdu sa propriété et qu'il ne s'agit plus de paramétrer, si on peut dire, de l'énergie sous la forme de durée, distribuer finalement des événements dans le temps et assister à des transformations de l'environnement et de l'univers observable. C'est pas ça. C'est du temps imaginaire qui, pour nous, a pour variable conjuguée, comme on dit en physique, c'est plus le temps réel a pour variable conjuguée de l'énergie. Ben, le temps imaginaire, pour nous, a pour variable conjuguée de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, cette information est d'essence mathématique, et c'est cette essence-là qui code, en quelque sorte, le développement du scénario cosmologique qui fait que l'univers existe sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Ça, c'est notre idée.
Et Dieu dans tout ça ?
Ben, Dieu, on n'en parle pas, parce que ce qu'on dit, s'avancer jusqu'à décrire Dieu, ce serait d'une...
Ça s'appelle Le visage de Dieu, votre
oui,
ouvrage.
Oui, mais bien sûr, mais enfin, c'est le titre qui a été emprunté à Georges Smoot, qui l'a d'ailleurs regretté. On le dit dans le livre, lui-même affirme, ce n'était qu'une métaphore, elle a fait le tour du monde. Lorsqu'on l'a contacté pour lui dire, est-ce qu'on peut emprunter votre titre, il a dit, mais oui, bien volontiers. Il est vrai que entre-temps, le livre a eu plus de succès qu'il ne l'imaginait peut-être, et que de se voir confronté en permanence à cette idée « j'ai vu le visage de Dieu », ça doit l'irriter passablement. Mais ce n'est pas ce que nous disons dans le livre. Dans le livre, nous disons qu'à l'origine, il y a des lois, que ces lois dictent en quelque sorte un scénario, et que l'univers, au moment du Big Bang, n'avait pas le choix de se développer autrement que selon le scénario cosmologique qui est établi sur des lois physico-mathématiques.
Ça, c'est observable, voilà. Parce que ce qu'on observe justement dans la première lumière, juste
Richard.
Un mot, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des anisotropies. Les anisotropies, ce sont des toutes petites différences de température qui sont visibles en l'an 380 000, le moment où les photons se libèrent de la matière. Alors, ça fait effectivement ricochet chez les physiciens à cette époque-là. Quand ils ont constaté cela, ils ont dit, dès les années 90, puisqu'on a vu ces différences de température, de l'ordre du millionième de degré. Un millionième en plus, c'est la matière, un millionième en moins, ce sont les vides. Et là, on aperçoit la trace d'un réglage qui est tel que, justement, Smoot dit, ben, quand j'ai vu cette lumière, il l'écrit dans son livre, je me suis dit que l'univers ne pouvait pas être le résultat d'un accident cosmique. Il le dit lui-même, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui.
Alors Michel Cassé, est-ce que c'est pas simplement une nouvelle énonciation de ce qu'on appelle le principe anthropique que nous propose Igor et Grechka Bogdanov, à savoir que une transformation de ce que peut-être on pourrait décrire, nous sommes là, donc l'univers est tel, à l'univers est tel que nous soyons là.
Non, je ne pense pas, mais d'abord, je voudrais préciser quelques points épistémologiques. D'abord, l'instant zéro est un instant dans un temps qui n'existe pas encore, et donc c'est une aporie philosophique inutile d'aller plus loin. C'est la première chose.
C'est-à-dire, après
le temps zéro...
Après le mur de Planck, c'est ça? Plus loin que le mur de
non.
Planck?
D'abord, il faut préciser ce qu'on appelle par mur de Planck, parce que les rhéteurs ont beau jeu, de certaine manière, faire une salade d'arguments quasiment incompréhensibles. Donc il faut reprendre clairement les choses. Étienne a fait valoir qu'il existait une sorte de contradiction entre les deux théories majeures de la physique qui s'appelle la relativité générale et la mécanique quantique. Le temps de Planck est le temps qui correspond au moment où les effets quantiques doivent être, d'une certaine manière, pris en compte s'agissant de la gravitation. La gravitation étant représentée comme la courbure de l'espace-temps. Le temps lui-même et l'espace fluctuent, et donc le temps devient écume, et les caravelles altières de la cosmologie se perdent dans le brouillard du temps. Voilà. Donc, on ne peut pas aller plus avant. Avant...
Avant le Big Bang.
Même pas. D'avoir traversé ce mur qui est un mur épistémologique. Ce n'est pas un mur définitif, il sera traversé comme le mur du son. Quand une théorie quantique de la gravitation digne de ce nom existera, le temps de Planck s'effacera et nous serons dans un régime ultra-planckien. Donc le temps de Planck, c'est 10⁻�43 secondes. On lui attache une longueur qui est de 10⁻33 cm. Donc on ne peut rien dire des distances inférieures à 10⁻33 cm et des temps inférieurs à 10⁻43 secondes.
Étienne Klein.
Moi, je l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes de langage. Or, je pense qu'effectivement, les astrophysiciens ont pris l'habitude de dire le temps de Planck, c'est 10⁻⁰⁴ secondes après le Big Bang.
Non.
Sous-entendu, le Big Bang, c'est l'instant zéro. Et donc, le Big Bang est toujours utilisé par commodité ou par volonté d'être bien compris comme une métonymie de la création de l'univers. Mmh. Et là, je pense que ça devient incompréhensible, puisque comme l'a dit Michel, et d'ailleurs tout le monde est d'accord autour de cette table, le mur de Planck est un mur en amont duquel nous n'avons pas de théorie physique opératoire.
Et
nous savons simplement que l'espace-temps tel que décrit par la relativité restreinte, par exemple, qui sert d'arène pour décrire les trois forces que j'ai évoquées tout à l'heure, celles qui ne sont pas la gravitation, cet espace-temps-là ne tient plus. Ça veut dire que parler de durée même avant le temps de Planck est une sorte d'incohérence. Et du coup, on est dans cette difficulté où tout le monde parle de l'origine, y compris Stephen Hawking, qui n'écrit plus ses livres depuis très longtemps. Donc c'est ça qui est assez dramatique dans le cas que vous avez évoqué. Hawking n'est plus capable d'écrire, même de relire des textes. Mais on lui fait signer, sans qu'il puisse le faire vraiment, des textes qu'il a lus mais auxquels il n'a pas adhéré. Tout le monde parle de l'origine, mais personne n'est capable de la dire, puisqu'à chaque fois qu'on l'a dit, on met en avant un principe supérieur, ou un être supérieur, ou une cuisse de Jupiter primordiale, ou je ne sais quoi, qui, par son énoncé même, signifie qu'on n'est pas en train de parler d'origine, mais d'une conséquence de ce qui a précédé. Donc les origines dont on parle en physique sont toujours des origines immanentes, puisqu'on n'est jamais capable d'expliquer de l'être qu'en invoquant un autre être.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous ne disons pas autre chose dans le livre. En fait,
on fait croire qu'enfin on va comprendre l'origine de l'univers, et ça donne du pouvoir
sur les
esprits.
Oui, peut-être, mais ce qui est important, en fait... D'abord, par rapport au Big Bang, c'est vrai qu'on le dit clairement, il faut comprendre que le Big Bang commence effectivement à un instant, Michel a dit ça de manière très claire, qu'on appelle l'instant de Planck, et donc tout commence là, la réalité physique commence là.
Tout commence
là,
c'est un achèvement le temps de Planck, c'est pas un commencement. C'est...
Oui, mais
ça achève la phase qui a précédé.
Oui, alors peut-être, mais alors justement, ça veut dire qu'on
admet l'idée... On n'est pas dans le commencement radical,
on admet,
Michel, alors que chez
vous
aussi.
On admet l'idée, effectivement, d'une continuité par rapport à quelque chose d'autre. C'est justement ça. Mais je crois, Étienne, que nous sommes là parfaitement en accord, parce qu'il y a deux questions qui se posent quand on observe, je dirais théoriquement, conceptuellement, le Big Bang. Personne ne l'a observé directement, hein, mais on l'observe conceptuellement. Et ce que l'on voit, c'est, ou ce que l'on perçoit conceptuellement, c'est un déferlement d'énergie à partir d'un vide, appelons-le comme ça, primordial, qui effectivement se traduit par des unités de mesure très petites, à la fois dans le temps réel, le temps de Planck, et l'espace, donc la longueur de Planck. la première question qui se pose, c'est, d'accord, l'énergie est observable conceptuellement, mais d'où vient-elle ? Première question. Ça, on pose cette question clairement dans notre ouvrage. Deuxième question, et ça, c'est effectivement une chose que nous véhiculons. Nous ne sommes pas les inventeurs de cette... Nous ne revendiquons pas le fait d'avoir effectivement dit ça pour la première fois. Une foule de physiciens, théoriciens, physiciens, mathématiciens l'ont déjà dit bien avant nous, et les plus grands. On constate que cette énergie ne se libère pas au hasard. On constate qu'il y a...
Alors c'est là que Michel Cassé n'est pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Michel Cassé ? C'est la question du hasard. Non, mais si on peut comprendre...
Fine-tuning.
Mais alors là, justement. Donc, votre thèse fait la supposition que l'univers est unique. Et je serais d'accord pour vous dire que si un univers est unique, il est miraculeux.
Exactement.
Maintenant, il existe une autre pensée, pas nécessairement athée. Il faudrait inventer une théologie du plurivers et faire revenir sur Terre Giordano Bruno. Nous sommes dans un champagne généralisé dont nous n'occupons qu'une bulle. Et donc, ce que vous dites, c'est paroissial, si j'ose dire.
Oui, c'est la petite paroisse. Voilà.
C'est le seul univers qui a réussi, quoi.
D'une certaine manière, non, on ne sait pas. Il y a peut-être de multiples univers qui ont réussi.
Si c'est miraculeux,
la
probabilité est assez faible.
Non. J'ai dit que si l'univers est unique, c'est miraculeux. Alors c'est miraculeux. Je dis que le plurivers et la notion cosmologique qui maintenant remplace l'univers, c'est une révolution copernicienne, nouvelle révolution copernicienne.
Si c'est vrai, bien sûr.
Donc bien sûr. Je vous demande de bien faire valoir qu'il n'y a pas qu'une théorie. Il n'y a pas qu'un Big Bang.
On le dit très clairement dans notre livre. En effet, la théorie des plurivers est une théorie qui permet d'échapper à l'idée que notre univers est miraculeux. C'est ce qui nous gêne, en fait, dans cette théorie. Pourquoi ? Parce que, au lieu d'être confronté à...
Mais ce n'est pas plus démontrable que l'existence de Dieu.
La rigueur qui est purement scientifique.
C'est
le gros problème.
C'est métaphysique.
C'est un problème métaphysique. On n'est plus dans la physique. Ces fameux univers parallèles ne seront jamais observables, définition.
Pas sûr.
Michel Cassé,
les collisions, on travaille actuellement. Vous aimez le rayonnement cosmologique fossile. Vous l'aimez, n'est-ce pas ?
On l'aime.
Eh bien, si deux bulles d'univers se sont rencontrées, disons, dans les premiers temps de leur jeunesse, et qu'elles ont péché.
Qu'elles se sont rencontrées.
Il se pourrait qu'il y ait une trace, justement, dans le rayonnement cosmologique fossile. Donc, cette théorie est métaphysique pour l'instant, mais elle pourrait tomber dans l'escarcelle de la physique.
Un jour. Bon, on pense que l'intersection est très, très, très hypothétique quand même. C'est vrai, je connais.
La science est optimiste. Je veux dire, on ne peut rien.
Attendez, je voudrais poser une question qui va fâcher tout le monde avant que les Bogdanov s'en aillent, puisqu'ils sont attendus sur Canal dans quelques minutes. C'est une question que pose le prix Nobel de physique William Phillips, qui est chrétien et qui demande pourquoi l'univers est-il si incroyablement adapté à l'émergence de la vie ? Que je traduirais d'une autre façon, comment expliquer autrement que par un miracle, et vous avez dit le mot vous-même, le phénomène des constantes physiques ? C'est quand même au centre de votre réflexion, ça, les Bogdanov.
Oui, mais en admettant, bien entendu, comme le disait Lichka. Michel, que l'univers est unique. Nous le pensons. Nous pensons, en fait, qu'il faut être assez humble par rapport à l'observable. Ce que nous observons, c'est un univers unique. On n'observe pas plusieurs univers. Donc, on s'en tient à ce qu'on observe. Et avec modestie. Michel, tu ne me contrediras pas en disant que finalement,
vous ne craignez personne.
Surtout à deux. Non, mais très, très sérieusement, c'est vrai que nous avons, Igor et moi, depuis très longtemps, dit que nous allons nous limiter effectivement nos hypothèses sur ce que nous pouvons observer en science. Et ce qui est donc réfutable. C'est le fameux test de Popper, sur scientifique doit être réfutable. Donc, disons que pour cela, on se contente de dire que l'univers est unique, on observe un univers unique, et donc nous avons un univers unique. À partir de là, les hypothèses des univers parallèles nous semblent en effet peu accessibles. Peut-être que des expériences dans un avenir plus ou moins lointain nous donneront tort, mais je n'ai pas l'impression que nous allions vers cela. Je pense que nous devons, en tout cas à l'heure actuelle, comprendre que nous sommes dans un univers unique et par conséquent, un univers qui conduit à ce que nous avons appelé tout à l'heure un ajustement des grands paramètres cosmologiques. Alors, ça ne va pas aussi loin
que ce qu'un certain nombre de penseurs actuels disent. Ils disent que de ce réglage initial qui est très important au moment du Big Bang, c'est de l'ordre de 10 puissance 120 par exemple pour la constante cosmologique, c'est absolument gigantesque, c'est vrai. Mais ce que nous disons, c'est que globalement, on peut constater que le hasard à cette échelle-là est exclu des modèles, ou quasiment exclu des modèles.
Si, mais, donc il y a un dessin intelligent.
En revanche, nous soutenons une chose, c'est qu'à l'échelle locale, et quand on va à l'échelle locale, c'est bien plus grand que ce qui se passe sur Terre, c'est vraiment une échelle très grande, à l'échelle locale, le hasard joue son rôle à plein. Toutes les lois de l'évolution, tout ce qui a été effectivement au principe de ce qu'on appelle le darwinisme avec la sélection naturelle, etc., opère. Et il n'y a aucune raison de le mettre en question. Donc ça, nous sommes absolument, je crois, en accord avec au moins les biologistes, peut-être un certain nombre d'astrophysiciens. Notre point de vue, il se limite à ce que nous voyons et ce que nous constatons. Et ça, nous le disons clairement dans notre ouvrage. Ceux qui veulent juger se reporteront à l'ouvrage.
Vous êtes plus scientifique que nous,
mais
finalement.
Nous sommes... Non, mais en tout cas, c'est vrai. Nous voyons effectivement un dispositif théorique qui fonctionne et qui est, disons, en accord avec les observations. C'est le Big Bang. Et nous observons qu'au moment du Big Bang, il y a un... entre guillemets, réglage. C'est tout ce que nous disons, et nous en concluons une chose, et qui est la chose unique, qui est dite dans notre ouvrage, mais ce n'est pas rien, nous en concluons que l'univers n'est pas né par hasard. Voilà, c'est tout.
Alors, sur le terme de hasard, parce qu'à chaque fois que Grishka Bogdanov emploie ce mot de hasard, je vous vois bondir tous les deux,
oui,
Michel Cassé et Étienne Klein. Hasard ou nécessité ?
Non, mais j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas sûrs que l'univers a une origine. Scientifiquement, ça n'est pas prouvé, puisque... comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à chaque fois qu'on essaie de remonter plus loin dans le passé, on tombe sur le fait que la singularité initiale s'évanouit. Ça veut dire que l'origine, si elle a eu lieu, est transportée plus loin dans ce qu'on pourrait appeler le passé.
Le Big Bang,
si
le Big Bang vous gêne, quoi. Parce qu'il présuppose l'idée d'une création.
Le Big Bang est devenu une sorte de fourre-tout qui désigne à la fois la création de l'univers, une phase initiale qui serait un univers beaucoup plus petit avec une très forte température, une très forte densité qui serait en expansion, etc. Donc le mot Big Bang, il est le véhicule de toutes sortes.
Considérons que le Big Bang est un épisode particulier.
Comme on parle de l'origine de l'univers, c'est quand même un sujet très sérieux, il faut faire attention au vocabulaire. Et je trouve que la question fondamentale, c'est que tout le monde autour de cette table et tous les physiciens, lorsqu'ils s'intéressent à la question des origines de l'univers, utilisent des lois physiques. C'est à partir des théories physiques qu'on tient un discours sur l'origine. Donc la question qui est fondamentale, c'est celle du lien entre les lois physiques et l'univers. Oui. Bon, et même si un jour, on avait ce qu'on appelle une théorie du tout, c'est-à-dire une théorie qui soit capable d'unifier dans un modèle mathématique unique les quatre interactions. On a cette équation du tout qu'on écrit au tableau. Je ne sais pas quelle forme elle prendra. On peut même imaginer qu'on saura la reconnaître parmi toutes celles qui lui feront concurrence. On peut même imaginer que cette équation nous sera intelligible et que nous saurons la résoudre. Est-ce qu'on aurait résolu pour autant la question de l'origine de l'univers ? La réponse, c'est non, parce que nous ne saurions pas comment un jeu d'équations mathématiques peut engendrer un univers physique qui obéisse aux lois de la théorie. Et donc, il y a des questions métaphysiques fondamentales et on peut évidemment les ignorer ou faire semblant d'y répondre et dire « voilà, je connais l'origine de l'univers ». Et c'est une façon de prendre le pouvoir intellectuellement alors que... Parce que finalement, on peut parler beaucoup plus que ce qu'on sait.
Présupposer les plurivers, c'est aussi prendre des sacrés risques.
Oui, mais je pense qu'effectivement, les astrophysiciens jouent un jeu dangereux parce qu'ils laissent à croire qu'ils ont mis la main sur l'origine,
non, je crois pas.
La question de l'origine est devenue une question intégralement scientifique, ce qui est loin d'être prouvé.
Non, soyons modestes.
Michel Cassé.
Personne ne prétend avoir percé les secrets de la création, le secret originel.
Le dernier livre d'Hawking, si.
Ah oui, mais ça, c'est différent. Enfin, franchement, je ne l'ai pas lu. Il a eu des paroles malheureuses, les métaphores ont abondé, le doigt de Dieu, la main de Dieu, etc., l'esprit de Dieu. Tout ceci, le visage de Dieu maintenant, je dois dire que tout ceci est de très mauvais aloi.
Alors, les frères Bogdanov nous ont quittés, comme vous en avez prévenu, Brice Couturier, tout à l'heure. Vous disiez à l'instant, Étienne Klein, c'est une façon de prendre le pouvoir. Mais en fait, la situation, on pourrait dire, c'est assez catastrophique, on est dans une époque où voilà, on aime les prophètes, et ils ont un petit côté comme ça, gourou, Igor et Grishka Bogdanov.
Il aurait fallu le
en
dire
même
devant
temps,
eux,
quand on... Oui, écoutez, je crois qu'il l'aurait... C'est pas un des termes qui leur aurait fait peur. Quand on s'intéresse un peu à cette littérature-là, en fait, elle est elle est très ancienne. Des gens qui essayent de s'intéresser aux essayent de lier la science, la physique et la métaphysique. Moi, je me souviens d'un article de Nicolas Witkowski que j'avais lu qui disait qu'en 1939, déjà, on avait fait des tentatives de rapprochement entre les avancées déjà phénoménales de la physique et la religion. Ça s'appelait Mon curé chez les savants de l'abbé Moreau. C'était quand même un titre savoureux. Et puis ensuite, on a Jean Guiton, Dieu et la science, etc. Ça fait très, très longtemps. Et c'est finalement, c'est quand même assez compréhensible. La question de l'origine, d'ailleurs, vous y consacrez des beaux chapitres, Étienne Klein, dans votre livre, c'est une question essentielle.
Oui, c'est une question, mais je pense que chacun d'entre nous comprend qu'il s'agit d'un mystère. D'un mystère et non pas d'une énigme. Simplement, à chaque fois que quelqu'un prétend nous dire quelle a été l'origine de l'univers, nous tendons l'oreille tout en sachant bien que ça n'est pas l'origine qui nous sera dévoilée. Les cosmogonies partent toutes d'un déjà-là. La cosmologie, la physique en général, a expliqué au XXe siècle toute une série d'origines, celles des atomes, celles des étoiles, etc., mais ce sont des origines secondaires, relatives. C'est-à-dire expliquer l'origine des atomes, c'est expliquer les processus qui ont dû avoir lieu pour que les atomes apparaissent. Donc, les atomes sont l'achèvement des processus qui les ont engendrés. L'origine est un achèvement. Et l'origine dont on parle ici ce soir, qui est l'origine de tout ce qui est, l'origine absolue, disons, est quelque chose qui restera, à mon avis, éternellement indicible.
Reste que, quand, en vous lisant même, Étienne Klein, je suis frappé de voir que certaines explications très scientifiques que vous donnez de cette origine recoupent étrangement les métaphores qui sont utilisées par les cosmogonies antiques. Quand vous parlez de cette nuit primordiale, quand la lumière était encore piégée au sein de la matière, ça rappelle quand même diablement la création de la Bible ou également de la cosmogonie grecque d'Hésiode, pour laquelle, effectivement, à l'origine, il y a néant et il y a nuit. Et la création intervient avec la lumière. Et finalement, c'est un peu ce que la physique nous raconte aujourd'hui.
L'origine de l'univers, c'est l'anagramme de « un vide noir grésille ». C'est peut-être pas par hasard, pour le coup.
Non, mais... donc peut-être les cosmogonies juives ou grecques, finalement, étaient moins loin que qu'on pourrait le croire de la vérité scientifique que vous êtes en train de dévoiler.
On peut toujours oser des rapprochements, mais ce que je veux dire, c'est que les cosmogonies ne racontent pas non plus l'origine.
Non, mais moi, je pense que c'est l'inverse. Michel Cassé. Dire que... notre esprit est imprégné par un langage et par une métaphysique qui est effectivement religieuse. Nous tenons notre philosophie des Grecs et notre religion des Hébreux. Et donc, notre représentation du monde, que nous soyons mathématiciens, poètes ou littérateurs, est toujours imprégnée, bien sûr, de mythes. Et il est question, bien sûr, maintenant, d'essayer, en cosmologie du moins, de bien séparer le cosmologos, donc le discours des origines avec son imprégnation mythique, de la physique qui se nourrit de mathématiques et d'observations. Donc on peut, en parlant comme ça ensemble, faire valoir une identité entre...
Mais ça vous semble pas sérieux?
Mais si, c'est sérieux, mais c'est culturel. Je veux dire, c'est normal.
Vous voulez dire qu'on projette ce qu'on connaît déjà sur ce qu'on essaie de comprendre?
Oui, de toute évidence.
D'accord.
Un peu comme l'astrologie projette sur le ciel, c'est
ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai des amis qui ont lu pendant le mois d'août le livre des frères Bohdanov, qui en ont conclu qu'il existait une sorte de démiurge ajusteur de constante qui règle la vitesse de la lumière pour que les étoiles ne crament pas trop vite.
Et que la vie apparaisse, surtout.
Voilà. Et puis, à la fin du mois d'août, ou plutôt au début du mois de septembre, elles entendent parler du livre signé Stephen Hawking, qui explique que l'univers a pu naître à partir de rien, grâce à la gravitation. Et ce qui m'étonne, c'est que ce genre de propos trouve un écho médiatique considérable, alors qu'il y a, il y a presque des contradictions dans les termes.
Expliquez-nous.
Si la gravitation peut créer l'univers à partir de rien, ça veut dire que le créateur, en l'occurrence, c'est la gravitation.
Oui, ça n'est pas rien.
Ce qui veut dire qu'il y a de la gravitation, mais il n'y a pas de matière pour la subir. Il y a juste, je sais pas, une loi de la gravitation. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous cassez la figure dans la rue, c'est quasiment un acte de prière, puisque vous chutez à cause de la gravitation. Et le fait qu'on n'interroge pas un peu plus ces notions et qu'on les lance comme ça dans la dernière page d'un livre, car le livre dont il est question fait 180 pages, c'est 180 pages sur la théorie des cordes, puis dernière page... Ah oui, mais finalement, on a pu créer l'univers sans Dieu grâce à une fluctuation, etc. Et les mots n'ont plus aucun sens, mais donnent simplement l'impression que la question de l'origine de l'univers est entrée dans le champ scientifique, alors qu'elle n'y a jamais été, et je pense qu'elle n'y sera jamais. De même qu'elle ne sera jamais dans des discours pertinents permettant de la décrire.
Alors, en revanche, ce qui est peut-être devant nous, et Michel Cassé, c'est la conclusion d'un de vos articles dans un bel ouvrage du CNRS qui s'appelle « Le ciel à découvert » et qui est un vrai ouvrage de vulgarisation accessible et très intéressant. Vous concluez votre article en disant « L'espérance de temps nouveau n'a jamais été aussi vive en physique ». Comme quoi, hein, les termes religieux, on a du mal à s'en séparer. L'espérance de temps nouveau.
Oui,
alors, qu'est-ce que vous attendez ? Vous y croyez, par exemple, pour bien... Enfin, voilà, j'ai posé alors, une question. C'est pour bientôt voilà, la compatibilité de la théorie quantique et de la théorie gravitationnelle ?
Peut-être, oui, parce que le CERN... Donc, l'espérance est expérimentale, en réalité. Donc, nous sommes dans une période de crue théorique et spéculative, qui fait que, d'ailleurs, nos frères, Bogdanov. Les Bog... se sont très bien infiltrés dans la partie...
Bog, ça veut dire Dieu en polonais, Bog.
Voilà. Ils se sont infiltrés parce que la science devient ésotérique. Et je suis d'accord absolument avec Étienne.
C'est la question du langage qui est effectivement toujours piégée.
Plus que ça, ce sont les concepts qui maintenant... Bon, le langage, bien sûr, mais le concept de pluriverbe, je suis d'accord avec vous, est très troublant. J'ose à peine en parler. J'en parle avec un grain de sel.
Est-ce que ce n'est pas une échappatoire, précisément ? Parce qu'on accuse les uns les autres d'idéologie, d'idéologisation, etc. Mais est-ce que, finalement, l'explication par les
revanche des athées.
Voilà, la revanche des athées. C'est parce qu'ils ne veulent pas admettre l'idée d'un commencement radical. Il leur faut donc quelque chose d'autre.
J'ai parlé au début de la théologie. Mais vous avez absolument raison. Donc, mais j'ai parlé de la théologie des plurivers. Pourquoi ? Mais parce que le Vatican s'y intéresse. Et parce que les théologiens s'y intéressent et que, finalement, si Dieu, dans leur définition, est omnipotent, il peut créer autant d'univers qu'il veut.
D'accord. Je n'ai pas pensé à cette explication-là.
Donc, vous voyez, là, je suis d'accord avec Étienne. Ces questions...
Mais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense que l'urgence est expérimentale.
Oui.
Et alors, le LHC
voilà,
va sans doute résoudre des questions d'origine, mais des questions d'origine relative. Oui. Par exemple, le grand enjeu du LHC, parmi d'autres, c'est de comprendre d'où vient que les particules ont une masse.
Exactement.
On va comprendre ce qu'on appelle l'origine de la masse. Le terme, d'ailleurs, est impropre. Mais ça, c'est avancé en science.
Et
pas à pas, on dévoile des origines secondaires. Laissez penser qu'en enfilant comme des perles des origines secondaires, les unes derrière les autres, on accédera à l'origine de l'univers, c'est, à mon avis, faire une extrapolation complètement hasardeuse.
Mais l'espérance est vive chez les physiciens. Pourquoi ? Parce que de nouvelles révolutions coperniciennes sont annoncées. Donc, la science est une longue lutte contre l'anthropocentrisme. Et le principe anthropique fait revenir, en effet, l'homme.
Comme finalité de la création.
Oui, et donc on va en venir à la discussion du hasard. Vous avez parlé de hasard. Et bien sûr, de créationnisme. Donc, ce qui se joue ici, dans un débat... disons, relativement apaisé, c'est quand même une question essentielle.
Est-ce qu'il y a un dessin, un grand dessin
Alors, le grand
dessin
n'est pas nécessaire si on fait l'hypothèse du plurivers. Et ça, c'est la revanche des athées, si j'ose dire. Et ça n'est pas plus démontrable, vous l'avez parfaitement dit,
que
la création unique.
Création, et le dessin intelligent.
Donc, nous attendons de la science qu'elle nous donne des indices. D'une certaine manière, qu'elle prouve et qu'elle éclaircisse les spéculations.
Ben je vous remercie Michel Cassé, vous êtes astrophysicien, vous êtes chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et au CEA. Vous êtes notamment l'auteur de « Généalogie de la matière » qui était paru chez Odile Jacob et « Théorie du ciel, espace perdu, temps retrouvé » qui est en rivage poche depuis 2005. Étienne Klein, vous êtes physicien, vous êtes chercheur au CEA, au commissariat à l'énergie atomique. Vous êtes professeur à l'école centrale et vous êtes notamment l'auteur donc d'un livre qui paraît aujourd'hui et que je trouve tout à fait intéressant. J'ai passé une partie de ma nuit avec et j'ai passé une bonne nuit, qui s'appelle « Discours sur l'origine de l'univers » qui paraît donc aujourd'hui chez Flammarion.
On aimerait bien savoir de quoi vous avez rêvé, Brice.
Après ça, c'est indicible, précisément. Et puis nous étions avec Igor et Grishka Bogdanov, les fameux frères qui viennent de nous quitter pour partir sur Canal+, parce qu'ils sont décidément très demandés en ce moment. On se demande pourquoi, pour leur livre « Le visage de Dieu », qui est un best-seller qui est paru chez Grasset. On parle déjà de 200 000 exemplaires vendus. À mon avis, c'est qu'un début.
Rendez-vous demain après le journal de la rédaction à 18h20 sur France Culture. Nous nous intéresserons à la nature du mouvement social qui agite en ce moment le pays. Du Grahamoud, Brice Couturier, Julie Clarini, Avril Ventura, Nathalie Lempereur et Francesca Fossetti.